Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h23, merci d'être avec nous et ce matin, notre invité, l'enfer aux éditions de l'Observatoire, c'est Gaspard Koenig, qui est philosophe et écrivain. C'est un conte philosophique, Patrick, ce
oui.
matin.
Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Bienvenue.
Avec votre livre, votre roman, aux éditions de l'Observatoire. Alors, Gaspard Koenig, trois raisons de vous avoir ce matin. Parce que vous avez un regard aiguisé sur la situation et notamment la gestion de la crise du Covid. Donc ça, vous l'évoquez dans votre livre et vous l'avez évoqué aussi à travers votre petit périple que vous avez fait. On va y revenir dans un instant. 2500 km à cheval sur les traces de montagne, notamment. Deuxièmement, parce que vous êtes à Londres, la capitale du Brexit, et puis la ville qui est au cœur. Oui, la capitale du risque, oui, au cœur de l'épidémie enflammée. Et puis évidemment, parce que il y a ce roman qui est aussi une critique peut-être de notre système où l'on court toujours plus pour gagner toujours plus. En quelque sorte, c'est ça le pitch un peu de votre roman.
Ce que j'ai imaginé d'abord, c'est à quoi ressemble l'enfer aujourd'hui. Parce que quand on se représente l'enfer, on imagine un peu l'enfer de Dante, c'est-à-dire des gens qui sont plongés dans la chaux, qui sont obligés de manger des excréments, qui hurlent de douleur toute la journée. Et au fond, le problème des humanistes de l'époque de Dante, c'était la souffrance. Il fallait éliminer la souffrance. On menait des vies très dures. Et donc, naturellement, l'enfer, c'est la souffrance absolue. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a quand même largement éliminé cette partie de la condition humaine. Et donc, je me suis dit, mais l'enfer, au fond, aujourd'hui, c'est plus la poix et les chaux et les hurlements. C'est l'inverse, c'est l'absence totale de souffrance. Et est-ce que l'enfer, c'est pas justement d'être dans une sorte de super aéroport où tout est parfaitement organisé,
à disposition.
Tout est sous surveillance, à disposition. Les 1000 possibles dont vous pouvez rêver sont accessibles. Vous avez une carte de crédit illimitée. Vous pouvez satisfaire tous vos besoins matériels, psychologiques, sexuels. Vous avez des conseillers pour tout.
Et on vous sollicite en plus.
Et votre cerveau est en permanence connecté sur une myriade de sollicitations qui suscitent le désir, désir qui est constamment satisfait mais jamais vraiment assouvi. Et vous êtes obligé de bouger tout le temps dans ce monde de désir. Le héros, par exemple, ne peut pas dormir. Je suis désolé de vous dire qu'en enfer, les damnés ne peuvent plus dormir. Et donc, ils doivent constamment prendre un avion, constamment être sur un tapis roulant. Et vous avez peut-être eu déjà cette sensation vous-même quand vous atterrissez dans un aéroport et qu'il vous faut prendre un autre train. Puis vous allez vous dire un jour, il faudra presque prendre un avion pour aller à l'autre bout de l'aéroport. Parce qu'au fond, si le trafic aérien est exponentiel et que la planète est finie, un jour, la Terre sera couverte d'aéroports. Et donc, on ne la visitera plus que d'aéroport en aéroport, si on pousse la logique jusqu'au bout. Et c'est un peu ça, effectivement, que mon livre met en scène, et c'est évidemment une critique sous-jacente, c'est un conte philosophique, donc la morale en est assez simple, de la manière dont nos sociétés sont organisées. C'est pas un hasard si le narrateur qui est plongé dans cet enfer est un économiste classique, qui peu à peu s'aperçoit que ce qu'il découvre là, eh bien, c'est l'application poussée à l'extrême de ses propres principes.
Oui, c'est ça. Donc c'est un peu un regard sur son passé, sur sa vie, et vous nous invitez à travers ce roman avec des passages quand même assez drôles, parce qu'il y a des moments donnés, il se dit tiens, j'avais pas pensé à ça aussi dans ma vie, j'avais pas fait ci, j'avais pas fait ça, enfin pas tout détaillé.
Oui, mais c'est pas tout n'est pas noir.
Non. Il y a aussi de bons moments, mais quelque part ça doit nous conduire à nous interroger sur nos pratiques aujourd'hui. C'est le confinement qui vous a fait prendre conscience de ça ou pas, Gaspard Koenig?
C'est un livre que j'avais commencé à écrire avant l'épidémie, mais je pense que le confinement ou le virus est un peu une ruse de l'histoire, c'est-à-dire il accélère une prise de conscience qui est déjà un peu sous-jacente depuis longtemps, et on espère surtout qu'à la sortie de cette crise, il va accélérer le changement d'un certain nombre de politiques qui font qu'on a trop, et quelque part avec de bonnes raisons au début, il ne faut pas tout jeter, mais on a trop assimilé le progrès à l'accroissement exponentiel du bien-être. Et quand vous prenez les indices de PIB ou les indices de développement d'ailleurs, vous avez toujours la santé, l'éducation, le bien-être matériel, mais au fond vous avez des grands besoins anthropologiques qui n'y figurent jamais. Et donc, quelque part, nous voulons faire un monde où tout est ultra efficace, tout est ultra efficient, et où nous nous plongeons nous-mêmes dans la prison de cette efficience. Mon héros, par exemple, essaye à un moment donné de sortir de l'enfer. Quel est le moyen de sortir de l'enfer sinon de mourir?
Oui, c'est ça.
C'est toute une réflexion, évidemment, sur l'immortalité, parce que quand vous êtes immortel, il y a beaucoup de choses qui vous paraissent un peu absurdes, alors que nous, elles nous paraissent logiques.
Mais c'est ça aussi de dire que la mort, en fait, vous fait prendre conscience qu'il faut vivre, surtout.
Et surtout qu'en fait, un monde sans mort est un monde où la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et quand on se met dans la peau de quelqu'un qui est immortel, comme je l'ai fait, puisque le narrateur parle en plus à la première personne pendant quelques mois, alors au début j'étais assez content d'être immortel, et puis petit à petit vous vous apercevez de tout ce que vous perdez en fait, quand vous n'avez plus la perspective du néant. Et c'est là qu'on s'aperçoit à rebours dans des sociétés qui quand même essayent d'éliminer la mort. On ne voit plus la mort, on ne pense plus à la mort, on ne parle plus beaucoup de la mort. Quand vous lisez les livres d'il y a encore deux siècles, la mort est omniprésente. Aujourd'hui, la mort est un sujet presque qu'on essaye de rendre anecdotique. Et en fait, quand vous vivez sans mort, vous apercevez que vous n'arrivez même plus à vivre correctement, parce qu'il y a plein de choses qui vous semblent évidentes qui ne le sont plus.
Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant, Gaspard Koenig, L'Enfer, votre roman aux éditions de l'Observatoire. Et on va s'interroger sur la gestion aussi de la crise, en fait, du Covid en France, en Europe, parce que vous êtes du côté de Londres, donc vous allez nous donner des nouvelles dans un instant. Justement.
Ne bougez pas, et puis vous nous appelez, hein, 0826-300-300, il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h32, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec notre invité ce matin, Gaspard Koenig, qui est philosophe et écrivain pour ce livre « L'Enfer » aux éditions de l'Observatoire. Et on va se poser la question si l'Angleterre, c'est l'enfer.
Oui, parce que Gaspard Koenig, vous vivez en partie à Londres, c'est ça?
C'est ça, ma vie était partagée entre Londres et Paris depuis... trop d'années, mais c'est vrai que le Brexit combiné au virus rend cet équilibre maintenant impossible et va forcer tous les gens qui, comme moi, avaient un mode de vie un peu expatrié à choisir l'un ou l'autre pays. On ne peut plus tellement vivre entre les deux aujourd'hui.
Ouais. Alors là, vous êtes encore à Londres ce matin. Quelle est la situation là-bas? Est-ce que, compte tenu de ce variant britannique qui déferle maintenant depuis 3 semaines, est-ce que vraiment tout est cloîtré, fermé, confiné ou pas?
Ah oui, la ville est... Bon, ça, c'est un peu comme un... On est habitué, j'allais dire maintenant, à ces confinements plus ou moins forts dans les différents pays. Comme vous l'avez rappelé, j'ai fait mon voyage à travers l'Europe, donc j'ai aussi visité l'Italie confinée, la France confinée, l'Allemagne confinée. À chaque fois, il y a des variations. Par exemple, en Angleterre, vous avez encore le droit de marcher dans la rue sans masque. Ce n'est pas le cas à Paris, parce qu'on est à l'air libre. Et donc, ça change un peu l'ambiance, parce que quand les gens ne sont pas masqués dans la rue, vous pouvez respirer un peu, mais en même temps, les magasins sont fermés. Enfin, voilà, c'est un équilibre. Tous les pays se battent un peu avec la même chose et essayent de construire des équilibres.
Alors, pour les Britanniques, on connaît leur flegme, quoi. Est-ce que là, ils le conservent malgré tout face au coronavirus?
On connaît surtout leur pragmatisme et l'inoculation des vaccins reflète ce pragmatisme, puisque vous savez qu'il y a déjà 2 millions de personnes qui ont été vaccinées en Angleterre et qu'on construit des grands centres de vaccination qui pourraient être ouverts 24 heures sur 24 pour vacciner les gens en série avec la première dose et pour commencer seulement la première dose du vaccin Pfizer. Vous savez, notre président français avait dit que nous étions en guerre il y a un an.
Oui.
Eh bien, quelque part, le Royaume-Uni applique une médecine de guerre, c'est-à-dire une médecine qui prend des risques pour aller le plus vite possible. Et c'est intéressant de voir que, au fond, tous les gouvernements vous disent nous nous appuyons sur les scientifiques, nous conduisons des politiques étayées par la science. Mais en fait, quand vous regardez, il est clair que les gouvernements ont des politiques qui reflètent la culture des différents pays. Regardez les Scandinaves qui ont été très très libéraux au début. Les Anglais qui sont aujourd'hui très pragmatiques, qui prennent des risques. La France qui est extrêmement administrative et centralisée, où il faut remplir des attestations, on est contrôlé sur les attestations. Les États-Unis qui ont été très laxistes. L'Allemagne qui est extrêmement décentralisée. La Chine qui exerce la surveillance numérique. Donc au fond, cette épidémie, elle met plutôt en valeur la gouvernance des différents pays et la manière dont cette gouvernance se reflète dans les politiques mises en œuvre.
Et quel regard ont les Anglais, justement? Est-ce qu'il y a une défiance vis-à-vis du vaccin?
Écoutez, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins répandu qu'en France. Et je l'explique par la confiance quand même, malgré tout ce qui s'est passé, malgré aussi le Brexit, il reste une sorte de confiance, je pense, plus établie dans les institutions en Angleterre, mais aussi parce que quelque part, les institutions sont plus proches des gens. C'est un pays notamment où vous avez une grande tradition parlementaire. Et donc, par exemple, toutes les critiques que les gens peuvent avoir sur la politique sanitaire sont reflétées au Parlement, parce que vous avez des débats au Parlement. En France, il n'y en a plus, puisque vous avez l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, c'est le gouvernement décide par un acte exécutif, et le Parlement n'a pas à se prononcer. Et donc, comme toujours, quand vous avez des actions qui sont extrêmement autoritaires, eh bien, la réaction la plus naturelle, quelque part, c'est de s'y opposer et de questionner l'ensemble du système. Alors qu'en Angleterre, vous avez encore ces intermédiaires, ces endroits, ces soupapes de décompression, où eh bien, vous chargez votre parlementaire, quelque part, d'exprimer vos doléances vis-à-vis du gouvernement, et ça crée tout de même une démocratie, je trouve, plus fluide et plus responsable.
Oui. Et les conséquences du Brexit, Gaspard Koenig, est-ce qu'elles sont de plus en plus visibles à Londres, même si, évidemment, il y a des conditions et des circonstances particulières aujourd'hui avec le Covid ?
Elles sont surtout visibles aujourd'hui à la frontière. Alors, ouais. Évidemment, pour les transporteurs, mais ça, je n'ai pas pu partager leur...
Ouais.
Enfin, si, d'ailleurs, parce que j'avais roulé en voiture à côté de la bande, vous savez, où les camions étaient parqués,
ouais.
Juste au moment de la fermeture des frontières, là, avant Noël. Et c'est très impressionnant de voir des dizaines et des dizaines de kilomètres de camions qui attendent. Et puis, nous-mêmes, à la frontière, maintenant, ben, on nous questionne pourquoi vous allez en France, pourquoi vous revenez en Angleterre, où est-ce que vous vivez.
Ouais.
Donc, quand même, on voit simplement, avant, l'Angleterre et la France étaient liées par... Enfin, j'allais dire, faisait partie du même espace. On n'avait pas franchement l'impression d'aller à l'étranger. Et aujourd'hui, on repasse une frontière avec tout ce que ça implique de paperasse, de bureaucratie, de stress.
Oui.
Et donc, clairement, ouais, quelque chose s'est brisé.
Oui. Et on disait que beaucoup de Français, puisqu'il y avait, je crois, quelque chose comme 600 ou 700 000 Français qui vivaient à Londres, est-ce qu'ils sont en train de plier bagages ou est-ce qu'ils vont rester là-bas ?
Je pense que beaucoup vont rester parce que quand la vie, quand vous vous installez, petit à petit votre vie s'organise, les enfants grandissent, vous avez des cercles d'amis, c'est compliqué quand même de s'arracher à un univers dans lequel vous êtes immergé.
Ouais.
Mais je pense qu'en revanche, la question se pose pour la plupart d'entre eux. Et pour moi, clairement, je vais revenir dans les mois qui viennent.
Vous allez revenir, oui, ça va être plus compliqué.
Mais est-ce que vous vous sentez à l'aise là-bas ? Est-ce que finalement, il y a un regard sur les Français qui aurait pu changer ?
À Londres même, non. Londres même reste pour le moment une ville extrêmement cosmopolite, où plus d'un tiers des gens sont nés à l'étranger. Mais je pense que c'est une dynamique, ça prend du temps, ça prend peut-être une dizaine d'années pour une dynamique de s'inverser. Mais la dynamique est clairement, va clairement vers une britannisation de l'Angleterre. Et c'est aussi quelque part ce pourquoi les Anglais ont voté pendant le Brexit, donc tout ça est assez logique.
Oui. Alors venons-en à ce que vous avez fait entre les deux confinements, entre le mois de juin et le mois de, grosso modo, de novembre à peu près, hein, c'est ça. Vous avez parcouru une partie de la France et un peu de l'Europe aussi, à cheval, 2500 kilomètres, sur les traces de Montaigne. Expliquez-nous ce que vous avez voulu faire.
J'ai voulu faire un peu l'inverse de l'enfer, ce sera peut-être le paradis, ce sera le
défi. Un vrai voyage,
exactement, parce qu'aujourd'hui on voyage en avion, on ne voyage pas en fait, on ne voit rien, et puis on arrive à peu près dans le même hôtel, avec le même taxi, en parlant la même langue, et souvent en voyant les mêmes gens dans les centres-villes où tout le monde se ressemble au fond sur la planète. Et donc là j'ai voulu faire un voyage plus près de chez moi, mais qui soit lent, en profondeur, et surtout qui repose sur l'hospitalité. Il n'est pas question, évidemment, de programmer « je suis avec un cheval », c'est très compliqué, vous n'avez plus de relais de poste, hélas, comme du temps de montagne, où les choses étaient en fait beaucoup plus pratiques pour le cavalier.
Le même cheval ?
Oui, moi j'ai gardé le même cheval, alors Montaigne avait la chance de pouvoir changer de cheval tous les soirs,
qui
faisait des étapes de 60
km.
Ouais. Exactement, alors que moi je devais ménager ma monture. Montaigne avait accompli le voyage en 1580, donc j'ai retrouvé son itinéraire, enfin qui est noté dans son journal de bord, et puis j'ai essayé de le suivre à peu près, en passant évidemment par les petits chemins, mais aussi en traversant les centres-villes, les banlieues, les zones commerciales, enfin en étant dans la modernité, en introduisant dans la modernité un moyen de transport qui la fasse réagir, si je puis dire.
Ouais.
Mais ce qui est très agréable, c'est de découvrir que quand vous êtes à cheval, vous êtes toujours vulnérable. Et quand vous cherchez un logis, vous introduisez toujours une complication. Soit vous trouvez quelqu'un qui veut vous loger mais qui n'a pas de place pour le cheval, soit vous trouvez une écurie qui a une place pour le cheval mais pas pour vous. Mmh. Et donc vous êtes toujours obligé d'organiser une mini prairie avec un bout de ficelle ou de supplier pour qu'on vous laisse un bout de canapé. Et donc tout ça ravive le sens de l'hospitalité. On parlait des besoins anthropologiques au début de cette émission. Mmh. Moi j'ai découvert un peu cette relation à l'autre qui était nouvelle pour moi. Il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a la haine, voilà, il y a plein de sentiments humains, puis il y a l'hospitalité. Mmh. Et l'hospitalité, c'est quelque chose de quand même de très fort et de très éphémère.
Mais il y a de la méfiance, beaucoup de méfiance.
Mais pas du tout. Et j'ai découvert, après les gros titres des journaux, rétrospectivement, parce que je n'avais pas regardé l'actu, j'avais découvert que dans les gros titres des journaux, pendant l'été, la France était un pays violent, la France était un pays défiant. Et franchement, j'ai traversé du nord au sud. J'ai pas eu une seule fois d'abord la moindre appréhension physique, la moindre altercation significative. Et en revanche, j'ai découvert que voilà, quand vous êtes aimable, que vous allez doucement, que vous respectez les gens parce que vous avez parcouru leur territoire, eh bien les portes s'ouvrent. Et les gens vous offrent l'hospitalité.
Oui, mais Gaspard,
vous partagez leur dîner.
Est-ce que sans cheval, les choses auraient été la même chose? Est-ce que quelqu'un qui frapperait chez vous sans cheval aurait le même accueil, sincèrement?
Non, le cheval, c'est quelque chose dont j'avais envie, puis c'était aussi pour reproduire l'histoire de montagne. Mais évidemment, le cheval, c'est un moyen de communication, de ce point de vue-là, extraordinaire. C'est un prétexte extraordinaire. Et bien sûr que sans cheval, les choses auraient été différentes. Mais ça prouve aussi que quand vous trouvez la bonne clé, si je puis dire, les serrures sont toujours là et vous permettent de rentrer un peu dans l'intimité des foyers et vous font découvrir quand même une France qui rend extrêmement optimiste, où les gens sont généreux et souvent plein de projets et puis qui me racontent des vies singulières. Oui. Intéressante. Et donc, autant mon voyage précédent sur l'intelligence artificielle m'avait un peu démoralisé, puis a conduit à cet enfer où effectivement tout est automatisé, tout est planifié à l'avance, tout est très confortable et tout est sous surveillance. Autant je trouve qu'il reste justement dans les profondeurs du pays quand on le parcourt lentement, qu'on se contente pas de demander des sondages sur la France périphérique, de quoi nous rendre extrêmement positifs.
Oui, mais c'est quoi? C'est la France un peu des campagnes? C'est la France des zones périurbaines? C'est la France des quartiers aussi difficiles? Et là, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Vous êtes arrêté aussi dans tous ces endroits?
Bah oui, j'ai par exemple traversé la banlieue de Meaux juste après l'Aïd, à cheval, les quartiers, Beauval en l'occurrence.
Ouais.
Et il s'est passé un peu le cheval intrigue, suscite la curiosité et plutôt la sympathie. Ouais. Et donc j'ai fait faire le tour des tours aux petits gamins des quartiers qui étaient ravis. Et puis après j'ai parlé aux parents. Et puis après tout ça c'est très bien fini, si je puis dire. Et puis les quartiers sont enfin en tout cas ce quartier que j'ai traversé, c'est une zone très très vivante. Au fond, la seule chose qui est vraiment déprimante, c'est la zone pavillonnaire périurbaine.
Oui.
Parce que quelque part dans les quartiers, vous avez beaucoup de vie. Dans les campagnes aussi. Mais la zone pavillonnaire périurbaine, j'ai remarqué quelque chose. Quand vous demandez votre chemin aux gens,
personne ne le connaît.
Et personne ne le connaît parce qu'ils vivent pas vraiment là. Ils vivent pas vraiment là. Ils travaillent à 50 km, ils font leurs courses au Leclerc. Et c'est un peu ça que je pense qu'on a raté. Et ça, c'était quand même une politique d'État dans les années 60-70. Qui n'existe pas, puisque j'ai traversé aussi l'Allemagne et l'Italie dans les mêmes proportions, c'est ces espèces de ceintures un peu inhumaines qu'on a construites autour des villes, mais aussi autour des petits villages. Chaque petit village a sa minuscule zone pavillonnaire. Et ça, c'est quelque chose justement qui participe de ce mythe de l'efficience que je dénonce dans l'enfer, en disant « Ah, ben, on va donner aux gens une petite propriété, bien ralliée à l'eau, avec une école à 10 minutes, et ils vont être heureux », mais en fait, ils sont pas heureux là-dedans. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est, même en termes d'aménagement du territoire, profondément à repenser.
C'est trop propre, voilà.
Merci.
C'est manicuré.
Oui. C'est ça. Merci, Gaspard Koenig. L'enfer, votre roman aux éditions de l'Observatoire. Donc, ce professeur d'économie qui, en arrivant, aux portes, après sa mort, aux portes de l'enfer, se rend compte que finalement.
Il pense que c'est le paradis.
Il découvre le monde qu'il a mis en place, en quelque sorte. C'est ça, ce roman. C'est assez drôle, cocasse parfois, terrifiant à d'autres moments. Je vous conseille. Merci, en tout cas, Gaspard Koenig, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.
Et en attendant, nous avons une gagnante ce matin, puisque ce matin, on vous offrait 150 euros de bons d'achat pour un livre personnalisé. Vous allez sur monalbumphoto.fr, Patrick, et vous mettez vos photos dessus.
Oui, c'est vrai, voilà, je suis en train d'essayer de le faire, là, mais ça ne marche pas, tiens, pour moi.
Ouais,
j'ai
message.
Pas pris le bon abonnement.
Ouais. Il faut des photos. Hein,
c'est surtout ça.
Je vais vous en envoyer. Et on a Yvette au téléphone qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Yvette.
Oui, bonjour Cécile. Hein, bonjour Sud Radio. Ah, bonjour Patrick. Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux. Tous nos vœux aussi. À vous aussi. Est-ce que vous êtes une adepte des albums photos, Yvette?
Oui. Par contre, oui, tout à fait. Les photos, c'est quelque chose qui reste et qui traverse, hein, les années. Et, oui. Plutôt qu'on ouvre un album, on se replonge de suite dans plein de souvenirs et ça fait beaucoup.
Mais moi j'adore.
Mais le problème, Yvette, c'est qu'on prend les photos, on les laisse sur son portable et on ne les regarde plus en famille. D'où l'intérêt de monalbumphoto.fr.
C'est très bien.
Voilà, donc vous allez pouvoir mettre les photos de vos enfants. Vous avez des enfants?
Oui, tout à fait, des enfants, des petits-enfants, oui.
Mais non, en tout cas, on vous souhaite des bonnes fêtes,
renouveler les fêtes.
Mais des fêtes de famille,
Cécile,
je voulais dire.
Depuis la semaine dernière, elle souhaite toujours des bonnes fêtes.
Non, je voulais
c'est
dire
sympa.
Elle adore ça,
elle fait ça tout au long de l'année, Cécile, les fêtes. Vous allez voir, elle va vous inviter aussi.
Mais moi je mange de la galette et j'écoute des chants de Noël toute l'année, donc voilà. Je voulais dire des bonnes fêtes de famille, bien entendu, pour faire des photos pour monalbum photo.fr. 150 euros de bons d'achat qui vous sont offerts. On vous fait un énorme bisou, Yvette.
Mais je vous fais de même. C'est vraiment très, très gentil. Je vous remercie énormément.
Merci. Et merci de votre fidélité à Sud Radio. On revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et ce matin, à 9h51, nous sommes avec Jacques Pessis. Bonjour Jacques.
Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Et on va revenir sur ces hommages, Jacques, de Georges Pernoud, le présentateur historique de Thalassa, et de Hubert Auriol, hein, qu'on a aussi nommé l'Africain, la légende du Dakar et l'ancien pilote moto.
Oui, les deux qui nous ont quittés. Jacques, vous êtes la mémoire de Sud Radio. Alors, avant d'aborder, donc, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas pris, hein, ou qui nous prennent en cours et qui ne l'auraient pas su, il est décédé, on l'a appris ce matin. Matin, oui. À l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie. Les deux personnages sont liés aussi beaucoup à la télévision, bien sûr, que l'on retrouvera dans l'émission aussi de Valérie Expert tout à l'heure, mais Hubert Auriol, avant la télé, il y avait c'est le sport, hein, qui a été son moteur. Hein.
C'est le cas de dire. Disait, plus c'est impossible, plus ça m'intéresse.
Ah oui.
Et c'était sa devise qui est devenue la réalité de sa vie. La moto d'abord. À 20 ans, il a eu le coup de foudre. Il a fait des compétitions de trial, vous savez, ces compétitions où il faut franchir des obstacles et où le temps ne compte pas. Et puis le Dakar arrive, il s'y inscrit. Premier Dakar, 79, finit 7e. 81, il gagne. 83, il gagne encore. Et puis, il va le remporter aussi en voiture avec Philippe Monel, navigateur, en 92. Et il est le seul pilote à avoir gagné les deux catégories moto et voiture. Et ensuite, il a été le directeur de la course pendant 9 ans, entre 1995 et 2004. Il y a eu des moments très forts. Un jour, il y a eu des menaces de terrorisme. Il faut organiser un pont aérien de 2000 km pour éviter le Niger. Et Hubert Auriol va simplement passer par le colonel Kadhafi qu'il reçoit et le laisse passer.
Oui, c'est vrai. Oui. Alors, on va l'entendre un petit peu, Hubert Auriol, pour entendre sa voix.
Tôt le matin, ultime entraînement avant le départ au jeu de confort. L'enjeu est de taille. Un des naufragés aura des nouvelles de sa famille. Une lettre, une vidéo.
Alors,
une
ça, visite, c'est Auriol, mais c'est le passage qu'on devait passer un petit peu après, mais qui est celui de
Koh-Lanta.
C'est pas un souci, de Koh-Lanta. Hein, voilà, c'était pour reconnaître. C'est étonnant d'ailleurs, les intonations, on a l'impression d'entendre Denis Brognard.
Oui,
non, mais c'est vrai. Revenons quand même d'un mot, peut-être, Jacques, sur ses passions qui étaient avant la télé. Eh bien, la moto et la voiture. Il est entré aussi dans la légende au cours de l'édition 87 du Dakar face à Cyril Neveu. Hein.
Oui, car il possède avant la dernière étape 12 minutes d'avance. Et puis, il passe un moment entre deux arbres. Ses pieds butent sur deux souches. Il a mal, il ne sait pas ce qu'il a. Il va arriver avec encore 3 minutes d'avance sur Cyril Neveu. Mais quand on lui enlève ses bottes, on s'aperçoit qu'il a deux chevilles fracturées. Les images existent sur YouTube, mais il pleure, mais c'est effrayant. Et bien sûr, il abandonne la course. Cyril Neveu va gagner. Et en même temps, Auriol va abandonner la moto.
Oui, oui, c'est ça. Il avait une autre passion, c'était l'avion. Hein.
Oui, et avec Pescarolo, vous savez, qui a gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans, ils ont battu le record du Tour du Monde sur un avion à hélice. Ils avaient un bimoteur des années 40, et ils ont mis 88 heures et 49 minutes, soit 3 heures de moins qu'Howard Hughes 50 ans plus tôt. Howard Hughes, souvenez-vous, c'était ce producteur de cinéma milliardaire qui a investi sa fortune dans la construction d'avions et qui est mort totalement fou, entouré de mormons dans une chambre d'hôtel.
Oui. Absolument. On va entendre un petit extrait d'Hubert Auriol, mais le vrai, lors du Dakar, on l'entend, on l'écoute.
C'était meilleure course en 80, c'était un peu l'humiliation, c'était une erreur de jeunesse, mais en fait ça m'a beaucoup servi par la suite.
Voilà, donc Hubert Auriol, c'est bien ce qui me semblait, et c'était bien Denis Brognard, c'était la voix off à l'époque.
Mais oui,
c'était la voix off, parce que quand il a été le premier présentateur, Hubert Auriol, de Koh-Lanta, c'est Denis Brognard, c'est pour ça que je me disais, mais il y a quand même un truc là, c'est pas possible, je la reconnaissais pas, évidemment, c'était ça, oui. Hein.
Oui, parce qu'en fait, Koh-Lanta, ça s'appelait au départ Les Aventuriers de Koh-Lanta. Ouais. Quand l'émission est née, il a fallu choisir un présentateur. Auriol s'est imposé parce qu'il avait le goût de l'aventure. La première saison s'est déroulée à Koh-Lanta, l'île aux millions d'yeux. Mmh. C'est pour ça que l'émission a gardé le titre. Et elle passait non pas le vendredi soir, mais le samedi et le dimanche de 18h50 à 19h50. Et il n'y avait pas l'épreuve des poteaux, qui est mythique aujourd'hui, ouais, pour gagner. En finale, il fallait poser sa main sur un totem géant en forme de colonne et la laisser dessus le plus longtemps possible. Et le vainqueur Gilles est resté dessus pendant 9 heures.
Oui, oui. Autre donc, disparition, on va l'entendre aussi, c'est Georges Pernoud qui a travaillé très longtemps à la télévision. Georges Pernoud.
Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d'hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien. C'est ouais, avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.
Voilà, Georges Pernoud, qui avait commencé sa carrière dans les années 60 à la télévision. Hein.
Oui, mais comme caméraman, et il fait plusieurs fois le tour du monde, et un jour, il filme une course de voile entre Portsmouth et le Cap, et c'est le coup de foudre. Et de retour à la Terre, il dit « l'eau, il y en a partout, et on n'en parle jamais à la télévision ». Et c'est comme ça qu'il propose un projet. Il pense à Thalassa, qui est une divinité qui symbolise la mer dans la mythologie grecque. Il propose l'émission, et deux jours plus tard, elle est acceptée.
Oui, c'est ça. Record de longévité, 33 ans.
Oui, 1704 numéros entre le 27 septembre 75 et le 30 juin 2017. Bon, Drucker a fait 55 ans de télévision, mais avec différentes émissions. Pernoud a fait une seule émission. Et d'ailleurs, au départ, il était en voix off les 5 premières années. Et c'est ensuite qu'il est devenu le présentateur. Et il ne faut pas oublier qu'il a aussi créé Faut pas rêver, émission présentée par Sylvain Augier. Mmh. Et un jour, il m'a dit que le titre dont il était le plus fier, Georges Pernoud, c'était champion du monde de la truanderie scolaire. En fait, il parvenait au lycée, alors qu'il était nul en maths, à avoir toujours 20 sur 20. Comment ? C'est son secret, il ne l'a jamais dit, mais il est quand même parvenu à mener ses professeurs en bateau.
C'est pas mal.
Merci beaucoup, Jacques Plessis, que l'on retrouve chaque week-end aussi dans Les Clés d'une vie, mémoire de la radio. Dans un instant...
C'est Valérie Expert qui reçoit la journaliste Daphné Roulier pour une nouvelle série, Les Grands Entretiens de Daphné Roulier, qui démarrera sur LCP. Et nous, on vous retrouve demain matin. On vous souhaite une belle journée.
Allez, ciao, ciao, on vous embrasse.
Et bien sûr, on pense aux familles des disparus. Restez avec nous. À demain matin, salut.
À bientôt et bon vent.